Qu'est-ce que la vérité? Numéro 5. Le Consolateur.
L'histoire prophétique qui a été dévoilée dans les sept tonnerres identifie à l'histoire dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Le secret est resté caché jusqu'à ce que l'histoire qu'il représentait advienne. C'est le temps où le Consolateur, l'Esprit de vérité, révèle la vérité que Jean a appelée l'Apocalypse de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la vérité. Ce n'est pas simplement que le mot « vérité » représente le caractère de Dieu, et ce n'est pas zinctanon une révélation du merveilleux linguiste que le mot hébreu « vérité » est utilisé de manière si profonde à travers les Écritures. Mais c'est aussi le miracle étonnant qui, une fois compris, devient la clé pour ouvrir les prophéties du livre de l'Apocalypse, et ce faisant, il ouvre toute la Bible. Mais cela n'est que pour ceux qui sont disposés à voir, à entendre et à garder les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.
Pour que les hommes reconnaissent la vérité d'une manière telle qu'ils en soient sanctifiés, la présence du Saint-Esprit est nécessaire. Les hommes peuvent comprendre intellectuellement le mot « vérité » et même être étonnés de son importance, mais la vérité doit être assimilée. Elle doit être intériorisée et faire partie de l'expérience d'une personne. Car la parole transmet la puissance créatrice de Dieu à ceux qui cherchent à être transformés à l'image du Christ. L'un des points de départ de mon enquête personnelle sur le mot hébreu traduit par « vérité » a été les spécialistes de l'hébreu, qui abordent eux aussi la nature étonnante du mot « vérité » et son usage dans la Bible. Mais rien ne permet de croire que leur compréhension intellectuelle du mot « vérité » les ait conduits au Christ.
La réalité prophétique selon laquelle la parole doit être mangée en présence du Saint-Esprit fait écho à la définition que donne Sir White de l'huile dans la parabole des 10 vierges, ainsi qu'à sa description des deux catégories de vierges qui attendent les chez époux. Un symbole a le plus souvent plus d'un sens, et le sens doit être défini par le contexte où se trouve le symbole. Il ne doit pas être défini par la définition du mot donnée par un expert en grammaire, ni par la période historique où le mot a été employé. Ce sont ces deux approches que les théologiens de l'adventisme ont retenues afin de nier la vérité. Un symbole est défini par le contexte dans lequel il est employé. Dans l'esprit de prophétie, le mot « huile » dans la parabole des 10 vierges représente au moins plusieurs réalités différentes selon le contexte du passage où se trouve cette huile. Pourquoi une classe de vierges possède-t-elle l'huile et l'autre pas ?
Il y a un monde plongé dans la méchanceté, la tromperie et l'illusion, dans l'ombre même de la mort, endormi, endormi. Qui éprouve le travail de l'âme pour les réveiller? Quelle voie peut les atteindre? Mon esprit se porte vers l'avenir, au moment où le signal sera donné. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Mais certains auront tardé à se procurer l'huile pour alimenter leur lampe. Et trop tard, ils constateront que le caractère, représenté par l'huile, n'est pas transmissible. Cette huile, c'est la justice du Christ. Elle représente en nos caractères. Et le caractère n'est pas transmissible. Nul ne peut l'obtenir pour un autre. Chacun doit obtenir pour lui-même un caractère purifié de toute tâche de péché. Bible Écho, 4 mai 1061 dans Sicène.
Les vierges folles ne possèdent pas le caractère nécessaire pour triompher de la crise imminente. Elles n'ont pas la justice du Christ. Mais l'huile est aussi un message. Et l'huile dans la parabole des 10 vierges, dans les derniers jours, est le message d'avertissement final représenté par l'Apocalypse de Jésus-Christ qui doit être entendu, lu et gardé.
Les oins qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre occupent la position autrefois donnée à Satan en tant que chérubin protecteur. Par l'entremise des êtres saints qui entourent son trône, le Seigneur maintient une communication constante avec les habitants de la terre. L'huile d'or représente la grâce par laquelle Dieu alimente les lampes des croyants afin qu'elles ne vacillent pas et ne s'éteignent pas. Si cette huile sainte n'était pas déversée du ciel à travers les messages de l'Esprit de Dieu, les puissances du mal auraient un contrôle total sur les hommes. Dieu est déshonoré lorsque nous ne recevons pas les messages qu'il nous envoie. Ainsi, nous refusons l'huile d'or qu'il voudrait répandre dans nos âmes pour être transmise à ceux qui sont dans les ténèbres. Quand retentira l'appel « Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre !» Ceux qui n'ont pas reçu l'huile sainte, qui n'ont pas chéri la grâce du Christ dans leur cœur, découvriront, comme les vierges folles, qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer leur Seigneur. Ils n'ont pas par eux-mêmes le pouvoir d'obtenir l'huile, et leurs vies sont ruinées. Mais si nous demandons l'Esprit Saint de Dieu, si nous plaidons, comme Moïse, « Fais-moi voir ta gloire », l'amour de Dieu sera répandu dans nos cœurs. Par les conduits d'or, l'huile d'or nous sera transmise. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. En recevant les rayons éclatants du soleil de justice, les enfants de Dieu brillent comme des lumières dans le monde. Review and Herald, 20 juillet 1897.
L'huile est le message final qui, encore une fois, est la révélation de Jésus-Christ. Dans le passage, ceux qui désirent avoir l'huile doivent supplier Dieu, comme Moïse l'a fait dans la grotte d'Horeb. Mais remarquez que si nous devons supplier, comme l'a fait Moïse, pour que Dieu nous montre sa gloire, nous devons d'abord demander le Saint-Esprit, qui est le Consolateur. Si nous le faisons, alors, par des anges et les deux conduits d'or, nous recevrons la justice du Christ. Nous nous abusons si nous pensons pouvoir prier et supplier pour obtenir le caractère du Christ, comme le suggèrent les traditions et coutumes de le 4 d'Obligon, tout en refusant en même temps le message de la révélation de Jésus-Christ. Sa justice nous est transmise par les messages de l'Esprit de Dieu, transmis par les deux oints qui se tiennent devant le trône de Dieu. Quand nous rejetons son message, nous rejetons sa justice.
Alors je répondis et lui dis, « Que sont ces deux oliviers, l'un à la droite du chandelier et l'autre à sa gauche ?» Et je répondis encore et lui dis, « Que sont ces deux rameaux d'olivier qui, par les deux tuyaux d'or, déversent d'eux-mêmes l'huile dorée ?» Et il me répondit et dit, « Ne sais-tu pas ce que sont ces choses ?» Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il dit, « Ce sont les deux oints qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. » Zacharie 4, 11, 14.
Les deux oints qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre sont également représentés comme les deux témoins de l'Apocalypse 11.
Au sujet des deux témoins, le prophète déclare encore, « Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Apocalypse 11, 4, psaume 119, rue 100. Les deux témoins représentent les écritures de l'Ancien et Nouveau Testament. La grande controverse, 207 entra.
Que l'on considère le témoignage de Zacharie ou celui de Jean au sujet des deux témoins, le contexte de l'un ou l'autre témoignage est le processus de communication qui constitue la toute première vérité mentionnée en lien avec le message de l'Apocalypse de Jésus-Christ en Apocalypse chapitre 1, verset 1. Du Père, au Fils, aux anges, à un prophète, à l'Église. Le processus par lequel Christ parle à l'humanité constitue une compréhension majeure qu'il cherche à révéler dans le message d'avertissement final. Cela correspond à l'accent mis dans la présentation des messages du premier et du troisième ange. Le message du premier ange est représenté par William Miller. Miller possède plusieurs caractéristiques prophétiques qui doivent être reconnues. Il fut le père du mouvement, ce qui, en termes de l'alpha et de l'oméga, exige qu'il y ait un fils. Il représentait un mouvement désigné par le nom millérite, qui est le mot pour un type de roche. Il a servi à organiser un ensemble de règles bibliques d'interprétation prophétique. Ces règles constituent un élément majeur de la communication des messages de l'Esprit de Dieu qui furent soit refusés, soit acceptés, au fur et à mesure que ceux de la génération de Miller choisissaient de conserver leurs conditions laodicéennes insensées ou de devenir des Philadelphiens sages. En tant que père du message du premier ange, il préfigure un mouvement qui proclamera le message du troisième ange, et la compréhension qu'aura ce mouvement de ce message sera dirigée par un ensemble particulier de règles bibliques d'interprétation prophétique qui établiront le message du troisième ange aussi solidement que Miller a été utilisé pour établir le message du premier ange. Dieu ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Doté sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Jacques 1, 16, 18.
Que ce soit au début ou à la fin de l'adventisme, les messages de l'Esprit de Dieu, représentés par l'huile, sont transmis par les deux témoins. Au début, avec les millérites, les deux témoins étaient l'Ancien et le Nouveau Testament, et à la fin, ce sont la Bible et l'Esprit de prophétie. C'est la raison pour laquelle Jean, qui illustre de la manière la plus parfaite la fin du peuple de Dieu dans les derniers jours du jugement investigatif, se trouvait sur l'île de Patmos.
« Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et compagnon dans la tribulation, dans le royaume et dans la persévérance de Jésus-Christ, je me trouvais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. » Apocalypse 1:9.
Le cadre prophétique de Patmos montre que Jean est persécuté. Il était persécuté pour avoir reçu les messages de l'Esprit de Dieu qui atteste la révélation de Jésus-Christ au moyen de la Bible et de l'Esprit de prophétie. La persécution du peuple de Dieu des derniers jours est aussi représentée dans l'Apocalypse, chapitre 11, lorsque les deux témoins sont mis à mort dans les rues et que tout le monde se réjouit de leur mort. Au chapitre 11, ces deux témoins sont Élie et Moïse. Ils ont rendu leur témoignage pendant 3 ans et demi, puis ils sont mis à mort, mais ils ont ensuite été ressuscités. Tous les prophètes parlent davantage des derniers jours que de leur propre histoire, de sorte que, s'il y a un livre qui parle des derniers jours, c'est le livre de l'Apocalypse, où tous les livres de la Bible se rejoignent et s'achèvent. Il doit donc y avoir, dans les derniers jours, un message qui est mis à mort puis ressuscité. L'Apocalypse 11 a illustré l'histoire de la Révolution française, mais elle illustre plus directement une attaque contre le message du troisième ange dans les derniers jours. Le message et le mouvement qui étaient typifiés par le message et le mouvement de Miller ont subi cette attaque et sont morts le 18 juillet 2020. Selon l'Apocalypse 11, cette attaque serait accomplie par la bête qui monte de l'abîme.
Et, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui montait de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres giseront dans la rue de la grande ville, qui, spirituellement, est appelée Sodome et Égypte, là même où notre Seigneur a été crucifié. Apocalypse 11, 9, 9.
Sir White nous informe que le puits sans fond représente une nouvelle manifestation de la puissance satanique.
Quand ils auront achevé leur témoignage. La période pendant laquelle les deux témoins devaient prophétiser, vêtus de sacs, s'est terminée en 1798. Alors qu'ils approchaient de la fin de leur œuvre, dans l'obscurité, la guerre devait leur être faite par la puissance représentée comme la bête qui monte de l'abîme. Dans beaucoup de nations d'Europe, les pouvoirs qui régnaient dans l'Église et dans l'État avaient, pendant des siècles, été contrôlés par Satan, par l'entremise de la papauté. Mais il est ici mis en évidence une nouvelle manifestation de la puissance satanique. La grande controverse, 268.
Il y a 3 puissances identifiées dans le livre de l'Apocalypse qui viennent du puits de l'abîme. La première mentionnée est l'islam au chapitre 9, verset 2. La seconde est l'athéisme de la Révolution française au chapitre 11, verset 8. Et la troisième est Rome moderne au chapitre 17, verset 8. La nouvelle manifestation des derniers jours, qui n'attaquera pas seulement le mouvement typifié par le mouvement millérite, mais attaquera aussi le monde, est le faux réveil du faux cri de minuit, appelé wokisme. Le wokisme représente une nouvelle manifestation de la puissance satanique qui est soutenue par l'antéchrist jésuite actuel et promue par l'entremise des marchands, des dirigeants politiques des Nations Unies, des représentants libéraux dans les églises, déchus du protestantisme aux États-Unis et du Parti démocrate de concert avec les rhino-républicains, qui soit promeuvent, soit autorisent la promotion de toutes les variantes des modes de vie déviants de la communauté homosexuelle, représentés au chapitre 11 sous le nom de Sodome. Ce sont ces 3 puissances qui mènent le monde vers Armageddon, et elles sont aussi représentées par l'Égypte, symbole de l'athéisme et de la mondanité. Inscrite dans l'anarchie de la Révolution française, autre élément de ces 3 puissances qui forment ce que Sir White appelle la confédération du mal. Elles promeuvent directement ou permettent le wokisme. Le wokisme est la contrefaçon satanique du réveil des 10 vierges. Nous avons encore à discuter de ces points, mais nous devons d'abord aborder les suites du meurtre dans la rue qui a été perpétré le 18 juillet 2020. De plus, chers lecteurs, veuillez comprendre que je n'ai aucun soutien à apporter au parti Tchirtebuka. Je n'ai confiance en aucun courant politique. Je ne fais que souligner les dynamiques prophétiques qui existent aux États-Unis, aux Nations Unies et au sein de la papauté. Ces dynamiques seront abordées plus précisément lorsque nous commencerons à traiter directement des 2 cornes qui évoluent en parallèle de 1798 jusqu'à la loi du dimanche. Le wokisme satanique, qui représente un cri de minuit contrefait, précède le véritable cri de minuit. Et avant le temps du cri de minuit authentique, ceux qui ont été tués dans les rues finiront par devenir soit des vierges folles, soit des vierges folles. La période où nos caractères sont liés en gerbe, soit dans la gerbe destinée au feu de destruction, soit dans la gerbe pour le grenier céleste, est maintenant arrivée. Sir White indique que, durant le temps d'attente, les vierges folles de l'histoire millérite ont réagi à la déception éprouvante différemment des vierges sages, ce qui suggère qu'au moment du temps d'attente, leur caractère était déjà arrêté. Mais le témoignage de Jérémie nous apprend que nous pouvons choisir de revenir à Dieu, et qu'il non seulement reviendra vers nous, mais qu'il fera de nous un mur d'airain fortifié contre les méchants et les redoutables, en nous utilisant comme son porte-parole dans la crise qui s'ensuivra. C'est à ce moment prophétique que Jésus promet de nous consoler. C'est là la signification des 4 chapitres de Jean qui s'inscrivent dans notre histoire actuelle. L'huile et l'Esprit Saint, c'est le caractère, et ce sont les messages de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est le Consolateur. De même que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et de même que Jésus a sacrifié sa nature divine pour accepter volontairement l'humanité qu'il avait, créée comme faisant partie de lui-même pour l'éternité. De même, l'Esprit Saint, qui est donné dans cette période, demeurera avec nous pour toujours.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 15, 18.
Ce sacrifice de l'Esprit, qui consiste à choisir de demeurer à jamais avec les êtres humains, est parallèle au sacrifice des deux autres personnes du trio céleste. Ce qui est peut-être tout aussi significatif que le sacrifice de l'Esprit, dans sa volonté d'habiter en chacun des rachetés pour l'éternité, c'est que l'arrivée du Consolateur, dans cette histoire particulière, indique le moment où le peuple de Dieu est scellé pour l'éternité.
Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellé pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, 30.
Dans l'histoire où la promesse du Consolateur est parfaitement accomplie, qui est l'histoire des 144 000 ? L'Esprit demeurera en nous pour toujours. Chaque chrétien qui remplissait les exigences de l'Évangile recevait le Saint-Esprit et était donc scellé pour le jour de la rédemption. Mais ce scellement ne fait que renvoyer au moment où les 144 000 doivent être scellés au cours de cette histoire actuelle. Dans Éphésiens, ceux qui sont scellés pour le jour de la rédemption sont mis en contraste avec ceux qui attristent le Saint-Esprit. Ils attristent le Saint-Esprit en refusant d'accepter les communications de l'Esprit de Dieu et refusent ainsi l'huile d'or. Lorsque le Christ promet de nous envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité, en cette période de déception, il promet d'apposer son sceau sur nous, et son sceau représente l'observance de ses commandements, en particulier le commandement du sabbat, qui est le jour où Jean a reçu la révélation et qui constitue la question sur le point de se poser au monde.
Le scellement des vierges sages s'accomplit avant l'épreuve de la loi du dimanche, car c'est là que les caractères des sages comme des folles seront manifestés, et le caractère ne se développe jamais lors d'une crise. Il se manifeste simplement. Le scellement représente, entre autres, une transformation d'une mentalité laodicéenne à une mentalité philadelphienne. Le problème, c'est que, pour que cette transformation s'accomplisse, la première épreuve pour chacun de nous est de comprendre sincèrement que, jusqu'à présent, nous avons été des laodicéens. Car, en tant que laodicéens, notre attitude spirituelle première consiste à penser que tout va bien, alors qu'en réalité, tout va de travers. Cette attitude doit être écartée. Elle fait partie des choses viles qu'il faut séparer du précieux.
Dès que le peuple de Dieu sera scellé sur le front, ce n'est pas un sceau ou une marque que l'on puisse voir, mais un enracinement dans la vérité, à la fois intellectuelle et spirituelle, de sorte qu'il ne peut être ébranlé. Dès que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour l'ébranlement, cela viendra. En effet, il a déjà commencé. Les jugements de Dieu sont maintenant sur le pays, pour nous avertir, afin que nous sachions ce qui vient. Commentaire biblique adventiste du septième jour, volume 4, 161.
Le Consolateur que Jésus promet à ses disciples, qui les réconforte au temps de la déception, conduit son peuple dans toute la vérité. Et c'est par un affermissement dans la vérité que nous sommes scellés. La vérité dans laquelle le peuple de Dieu doit s'affermir en ce moment est la vérité qui est décelée juste avant la clôture de la probation. Car le temps est proche. Cette vérité est la structure de l'histoire cachée des sept tonnerres, et cette histoire cachée identifie l'histoire où la révélation de Jésus-Christ est dévoilée. L'histoire cachée des sept tonnerres s'accomplira au moment même où la vérité, présentée comme l'histoire cachée, est décelée. Le décellement de la vérité est ce qui scelle ceux qui reçoivent le message qui avait été scellé auparavant. Le peuple de Dieu est scellé, au front, avant l'ébranlement des nations, en colère, qui survient au moment de la loi du dimanche, entraînant ainsi la ruine nationale. L'Apocalypse de Jésus-Christ constitue les « paroles de la prophétie » du livre de l'Apocalypse, lesquelles ne doivent plus être scellées, car le temps est proche. C'est la vérité qui doit maintenant être lue, entendue et surtout mise en pratique, si nous voulons être bénis.
Judas lui dit « Non, l'Iscariote. Seigneur, comment se fait-il que tu te manifesteras à nous et non au monde ?» Jésus répondit et lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 22, 26.
Pour ceux qui gardent le message qui est en train d'être décelé, La promesse est que le Consolateur nous enseignera toutes choses, tout ce que Jésus a dit à vous. C'est la promesse qui s'est accomplie pour les disciples d'Emmaüs, puis pour les 11 disciples. Lorsque Christ retira sa main des yeux empêchés des disciples d'Emmaüs, et qu'ensuite il ouvrit l'intelligence des 11 disciples afin qu'ils puissent pleinement comprendre les Écritures, il consignait une promesse pour ceux qui vivront dans les derniers jours, qui reviendront de leur déception, se repentiront de leur condition laodicéenne et accepteront la vérité. Le Consolateur, dans les derniers jours, rappellera toutes choses à notre mémoire, en nous enseignant toutes choses, tout aussi significatif que le rappel des vérités passées à notre mémoire, pendant qu'il nous enseigne toutes choses, il nous montrera aussi les choses à venir.
Néanmoins, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De la justice, parce que je vais vers mon Père et que vous ne me verrez plus. Du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 7, 14.
À ce moment-là, le Consolateur nous guidera dans la vérité, nous enseignera toutes choses, y compris les choses à venir. Car à ce moment-là, Jésus a encore beaucoup de choses à nous dire. Ces choses, qu'elles proviennent de notre mémoire, des choses à venir ou des nombreuses choses qu'il a encore à nous dire, sont ce qui nous scelle en vue de la crise à venir. Il en est ainsi, car sa vérité représente sa puissance créatrice. Il nous scelle avant la crise à venir, car il entend que nous soyons avertis à l'avance de la plus grande période de persécution contre son peuple qui ait jamais eu lieu dans l'histoire sacrée. Cette persécution montre clairement que les paroles et les actions que nous avons faites dans le passé seront rappelées et utilisées contre nous, comme les paroles du Christ ont été déformées contre lui. Néanmoins, nous devons présenter le message comme un témoignage contre leur rébellion, tel que représenté par Ézéchiel et le Christ.
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais toutes ces choses, ils vous les feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait au milieu d'eux des œuvres que nul autre homme n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela arrive afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Mais quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 20, 26.
L'Esprit de vérité, qui est le Consolateur, rendra témoignage au Christ, qui est la vérité. Et la vérité est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'histoire cachée des sept tonnerres, qui est maintenant dévoilée, est le message de scellement des 144 000. Au lendemain de Corachie à 2020, Jérémie fournit un exemple nous montrant que nous pouvons choisir de revenir à celui qui nous a aimés le premier. En accomplissant cette œuvre de retour, nous avons la responsabilité de séparer le précieux du vil. Si nous œuvrons à notre salut, avec crainte et tremblement, et que nous accomplissons cette œuvre, nous serons scellés et entrerons immédiatement dans la plus grande crise de l'histoire de la terre. Nous aurons aussi le privilège de vivre l'histoire que les prophètes, les rois et les hommes justes ont désiré voir. Ceux qui entreprendront cette œuvre et reviendront marcheront dans la lumière qui procède du trône de Dieu. Et par l'intermédiaire des anges, il y aura une communication constante entre le ciel et la terre, ce qui est le processus de communication identifié dans le premier verset du livre de l'Apocalypse.
Tous, dans ce monde, ne se sont pas rangés du côté de l'ennemi contre Dieu. Tous ne sont pas devenus infidèles. Il y a un petit nombre de fidèles qui demeurent fidèles à Dieu. Car Jean écrit : Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. Bientôt la bataille fera rage entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bientôt,
Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, afin que ce qui ne peut être ébranlé demeure.
Satan est un étudiant assidu de la Bible. Il sait que son temps est court et il cherche en tout point à contrecarrer l'œuvre du Seigneur sur cette terre. Il est impossible de donner la moindre idée de l'expérience du peuple de Dieu qui sera vivant sur la terre lorsque la gloire céleste se mêlera à une répétition des persécutions du passé. Ils marcheront dans la lumière procédant du trône de Dieu. Par le ministère des anges, il y aura une communication constante entre le ciel et la terre. Et Satan, entouré d'anges mauvais et se prétendant Dieu, accomplira des miracles de toutes sortes, afin de séduire, s'il était possible, même les élus. Le peuple de Dieu ne trouvera pas sa sécurité dans l'accomplissement de miracles, car Satan contreféra les miracles qui seront accomplis. Le peuple de Dieu, mis à l'épreuve et éprouvé, trouvera sa force dans le signe dont il est parlé en Exode 31, 12, 18. Ils doivent s'appuyer sur la parole vivante. Il est écrit. C'est le seul fondement sur lequel ils puissent se tenir en sécurité. Ceux qui ont rompu leur alliance avec Dieu seront en ce jour sans Dieu et sans espérance. Les adorateurs de Dieu se distingueront particulièrement par leur respect du quatrième commandement, car celui-ci est le signe de la puissance créatrice de Dieu et le témoignage de son droit à la vénération et à l'hommage de l'homme. Les méchants se distingueront par leurs efforts pour renverser le mémorial du Créateur et pour exalter l'institution de Rome. À l'issue du conflit, toute la chrétienté sera divisée en deux grandes classes, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque. Bien que l'Église et l'État unissent leur pouvoir pour contraindre tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir la marque de la bête, le peuple de Dieu ne la recevra pas. Apocalypse 13, 16. Le prophète de Patmos voit ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu et chantant le cantique de Moïse et l'agneau. Apocalypse 15, 2. Des épreuves et des tribulations redoutables attendent le peuple de Dieu. L'esprit de la guerre agite les nations d'un bout à l'autre de la terre. Mais au milieu du temps de détresse qui vient, un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a une nation, le peuple élu de Dieu demeurera inébranlable. Satan et ses légions ne peuvent les détruire, car des anges d'une puissance supérieure les protégeront. Témoignage, volume 9, 15-17.
Il vaut la peine de reconnaître que ce passage constitue la fin d'un chapitre qui commence à la page 11 de Témoignage, volume 9, que l'on peut voir comme représentant 9-11. Il vaut la peine de noter que le titre porte sur l'époux qui vient et aussi sur les tables d'Habacuc, d'où Paul a tiré le verset qu'il a écrit dans l'Épître aux Hébreux. Le début du chapitre marque l'histoire qui a commencé le 11 septembre 2001. Il mentionne les deux tables de l'alliance prophétique conclue au début de l'adventisme et le titre est « La dernière crise », ce qui identifie le dernier cri de minuit. La fin du chapitre est en plein accord avec le début, car le début comme la fin aborde la crise finale.
Section 1 pour la venue du roi. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et ne tardera pas. Hébreux 10, 37. La dernière crise. Nous vivons au temps de la fin. Les signes des temps qui s'accomplissent rapidement indiquent que la venue du Christ est proche. L'époque dans laquelle nous vivons est solennelle et importante. L'Esprit de Dieu se retire progressivement mais sûrement de la terre. Des fléaux et des jugements tombent déjà sur ceux qui méprisent la grâce de Dieu. Les calamités sur terre et sur mer, l'état d'instabilité de la société, les alarmes de guerre, sont de mauvais augure. Ils annoncent des événements imminents de la plus grande ampleur. Témoignage, volume 9, 11.
Si nous revenons et acceptons la haute vocation d'être la bouche de Dieu, à l'exemple de Jérémie, nous participerons très bientôt au plus grand rassemblement de l'histoire sacrée.
Il leur adressa aussi des paroles d'espérance et de courage. « Que votre cœur ne se trouble point, dit-il. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Jean 14, 1, 4. C'est pour vous que je suis venu dans le monde. Pour vous, j'ai œuvré. Quand je m'en irai, je continuerai à œuvrer avec ardeur pour vous. Je suis venu dans le monde pour me révéler à vous, afin que vous croyiez.
Je vais vers mon Père et le vôtre pour coopérer avec lui en votre faveur.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais auprès de mon Père. Jean 14, 12. Par là, le Christ ne voulait pas dire que les disciples accompliraient des entreprises plus élevées que les siennes, mais que leur œuvre aurait une plus grande ampleur. Il ne se référait pas seulement à l'accomplissement de miracles, mais à tout ce qui s'accomplirait sous l'action du Saint-Esprit. « Quand le Consolateur sera venu, dit-il, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi dès le commencement. » Jean 15, 26, 27. Ces paroles se sont merveilleusement accomplies. Après la descente du Saint-Esprit, les disciples furent tellement remplis d'amour pour lui et pour ceux pour qui il est mort, que les cœurs furent attendris par les paroles qu'ils prononçaient et les prières qu'ils offraient. Ils parlaient par la puissance de l'Esprit, et sous l'influence de cette puissance, des milliers se convertirent. Les Actes des Apôtres, 21, 22.